Quartier Libre, l'émission d'actualité culturelle animée par Agathe Callot.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette cinquième émission de Quartier Libre à Jazz in Marciac. Nous sommes lundi 22 juillet et aujourd'hui, on entendra un petit peu moins que les autres jours parce qu'on va avoir un petit concert juste à côté de nous, mais on espère que le son sera quand même bon. Antoine est là pour ça. On est ravis d'entamer une deuxième semaine de festival et on est toujours aussi émerveillés par la beauté et l'ambiance incroyable de cette 46e édition de Jazz in Marciac. Pour un bref petit rappel, notre présence sur le festival, Quartier Libre est un média donc culturel qui parcourt la France et a la chance cette semaine et surtout le festival de venir couvrir cette 46e édition de Jazz in Marciac. Nous invitons tout le public à nous rejoindre tous les jours de 13h à 14h pour écouter nos émissions de radio quotidiennes et ensuite qui sont diffusées en podcast. Vous pouvez en plus vous installer bien confortablement dans nos transats Quartier Libre puisque oui, on les a fait faire et ça c'est quand même très beau. Nous sommes aujourd'hui avec Jean-Marc qui arrivera tout à l'heure normalement, qui propose des ateliers tout au long du festival. Et nous sommes avec Baptiste Herbin et Pierre Marcus, tous les deux au micro. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Et vous sortez de la scène des Bis, vous venez de terminer le concert.
C'est ça.
Alors, c'était bien ?
Super cool.
De bon matin, ça réveille.
De bon matin, c'est vrai que ça avait l'air difficile ce matin. Tu m'as dit, oh là là, il est tôt, mais on est là.
Bah parce que je venais de Perpignan la veille, enfin, la vie de musicien.
C'est ça, la vie sur les routes, quoi.
Ouais.
Et vous, c'est pas la première fois, donc là, vous disiez, c'est au moins la quatrième, cinquième fois que vous venez à Jazz in Marciac.
C'est ça.
À chaque fois, ensemble ou pas du tout ?
Voilà, toute première fois, j'étais en 2010, donc j'avais 23, 24 ans. Non, c'était avec... Laurent Fickelson, Sylvain Romano, avec qui j'ai fait deux disques juste après, contrebassiste, avec qui j'ai joué il y a deux jours, là, à Kéran, avec André Secarelli. Et à la batterie, c'était un Marseillais, j'ai oublié son nom, figure locale. C'était la première fois.
Oui, et moi avec Baptiste, il y a eu au moins trois fois. Trois fois ensemble.
Ouais.
Dont un hommage à Cannonball Adderley, qui était super, qui avait été enregistré par France Musique et diffusé en direct.
De bon matin aussi, je me souviens.
Oui, c'était à 11h pareil.
Parce que la veille, on avait, profité de la soirée, beaucoup même. Donc j'ai entendu à, je sais pas, 11h moins le quart.
Il faut se réveiller.
Ouais, et alors ? HB, je venais de mettre mon réveil au dernier moment. Mais il y a la balance, je me dis, bon, bah, j'arrive. Puis en fait, ah mais c'est enregistré par France Musique. Ah bon ? Allez hop,
faut être un peu sérieux. Et donc, ce que je vous propose, c'est de d'abord parler chacun de votre carrière et ensuite de parler de votre rencontre et de votre venue ici. D'abord, pour redire aussi pour nos auditeurs, Pierre Marcus, tu es donc contrebassiste et compositeur. Et de ton côté, Baptiste Herbin, tu es saxophoniste. Donc, un petit retour dans le temps, j'aime bien faire ça. Pour toi, Pierre, tu as commencé assez tard la musique. Finalement, tu as fait tout ça en autodidacte. Et tu as commencé d'abord par la basse et ensuite est arrivée la contrebasse. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton déclic et qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller côté contrebasse ?
D'accord. J'étais en autodidacte à la basse électrique, plutôt sur des musiques reggae et funk. Et un jour, j'ai décidé de faire de la musique sérieusement. Donc, je me suis inscrit au conservatoire à 23 ans. Et la basse électrique dans le jazz, il n'y en a pas beaucoup. Et je suis tombé amoureux à force d'écouter le jazz, la contrebasse. Donc à 25 ans, j'ai dit, bon allez, on va passer le cap, on va y aller, on va s'accrocher et c'est parti.
Et après, par contre, tu as fait le conservatoire au moment de la contrebasse.
C'est ça. Donc j'ai fait le conservatoire et j'ai terminé à 30 ans et je suis parti à Paris pour la musique.
Ok. Et alors, tu as sorti un premier album en 2015, je suis remontée un peu en arrière, ça s'appelait Longue Attente. Je vous propose qu'on écoute un petit extrait.
Thank you.
Alors, ce que j'aime bien, c'est que quand je mets des sons qui datent de y a longtemps, je vous vois faire un peu des signes, genre waouh, on a quand même un peu progressé depuis. Est-ce que tu peux nous raconter justement l'histoire de ce premier album et de ce qu'on vient d'entendre ?
Ce premier album, justement, je ne m'y attendais pas. Et c'est un album que j'ai fait quand j'étais encore au conservatoire avec mes amis là-bas. Et j'écrivais déjà de la musique, j'avais envie d'enregistrer tout de suite, j'étais impatient. Et on a eu la chance d'avoir un studio d'une hyperchée qui s'appelle, qui nous a enregistré gratuitement cet album. Et donc voilà, je ne l'avais pas entendu depuis cette époque, quoi. Donc ça fait bizarre, ça fait vraiment bizarre. Ouais.
Ah, j'aime bien vous faire ça, ah ouais. Je vous surprends.
Petite surprise.
Ça. Et donc depuis, t'en es à ton quatrième et donc dernier sorti en 2023 assez récemment. Il s'appelle Second Life, nouvel album, où on retrouve justement au saxophone Baptiste. Avant de rentrer un petit peu plus dans le détail, j'ai vu dans ta discographie que t'étais toujours en quartet. Est-ce que t'as changé les instruments au fur et à mesure ? Est-ce que c'est un peu toujours la même chose ? Est-ce que c'est les mêmes musiciens ?
Alors à partir du deuxième album, voilà, j'avais rencontré en arrivant à Paris donc Baptiste, dont je rêvais de jouer avec lui. Et c'était le premier disque avec Fred Perrier au piano et Thomas Delors à la batterie. Donc on a gardé ce quartet et là c'était vraiment un album en quartet, mais il y avait quand même un invité qui était Irving Akao, que j'adorais. Et à partir du troisième album, on a continué ce même groupe, mais avec Simon Chivalon au piano qui a pris la place de Frédéric. Et depuis, ça reste avec Baptiste, Thomas et Simon, sauf que j'ai souvent des invités dans les albums sur un ou deux morceaux. Donc j'avais invité Alexis Vallée au vibraphone, Sylvain Gontard à la trompette, Mélina Tobiana au chant. Surtout sur le dernier album, j'ai voulu changer un peu la batterie, donc j'ai invité Benjamin Enoch sur deux morceaux et Raphaël Panier aussi, qui a joué avec nous aujourd'hui à Marciac.
Et justement, tu parles de guest sur cet album. Moi, j'ai beaucoup aimé la voix de Mélina Tobiana. On va écouter un petit extrait. Et du coup, dans cet album, vous proposez un mélange entre le jazz traditionnel, le blues, le gospel, un peu de classique et aussi des influences de Bulgarie, de ce que j'entendais. Pourquoi ce mélange ?
Alors, j'avais envie, j'aime bien ne pas rester toujours sur une même esthétique, proposer voilà, des esthétiques différentes. Je trouve ça cool de ne pas rester tout le temps sur les standards ou le swing. Il y a tellement de possibilités et les influences bulgares, c'est la deuxième fois que je le fais. Parce que ma femme est bulgare et que j'y passe pratiquement un mois par an là-bas. Donc ça m'a influencé forcément et m'a donné envie de créer ça avec le jazz.
Et on n'appelle jamais un album par hasard. Pourquoi Second Life ?
Second Life, pour une nouvelle vie après pas mal de soucis. Un départ à zéro, on va dire. Voilà.
Et bien je vous propose qu'on écoute un petit extrait et puis on se reparle après. Alors on va maintenant parler avec toi Baptiste. Baptiste, est-ce que tu peux nous raconter, donc toi tu es saxophoniste, quelle a été ta rencontre avec le saxophone ?
Alors à 4 ans.
Ah oui, très très jeune.
Ouais.
Ah, pour le coup, 4 ans, boum, un saxophone dans les mains.
Bah parce que je suis issu d'une famille d'artistes, pas de musiciens, mais j'avais écouté la cassette audio Piccolo et Saxo. J'ai entendu la famille des sax, j'ai dit je veux faire ça.
Maman, papa, je veux faire ça.
Je veux faire ça, voilà. Alors j'ai commencé par le piano, évidemment, parce que quand on a 4 ans, il faut avoir une certaine condition physique, il faut avoir ses dents définitives aussi, c'est mieux. Et donc à 11 ans, j'ai reçu le premier sax. Enfin, c'était l'oncle de ma mère qui est musicologue, qui est à Strasbourg, qui m'a prêté son Mark VI des années 60. Et puis voilà, ça a commencé comme ça. Et puis en fait, après j'ai commencé à prendre des cours avec Julien Louraud, qui est un sacré saxophoniste. Et à 14 ans, 15 ans, je me suis dit, bon, je vais en faire mon métier. J'étais à Chartres, puisque je suis originaire de Chartres. On a commencé à faire les études, aller à Paris, prendre des cours avec... j'avais Jean-Charles Richard, prendre des cours un peu particuliers à droite à gauche, et puis aller au CNSM. Et après, voilà, assez rapidement, on m'a proposé une résidence au Duc des Lombards.
Wow.
Voilà, pendant 2 ans, c'était tous les mois. Et là, j'ai fait mon réseau.
Oui, c'est ça, c'est aussi un travail de réseau, finalement.
Là, j'ai rencontré André Ceccarelli, et qui m'a dit, t'as pas de disque, t'as rien. Il dit, bon, bah, je te présente à mon producteur, je vais avoir 21 ans, et puis voilà, premier disque.
Ok, ah 2000, ouais, 21 ans quand même.
Ouais, en 2011-2012. Et puis après, ça a continué sur un deuxième disque, sur un troisième. Je suis allé souvent à New York, j'ai voyagé beaucoup au Brésil. Là, j'y retourne encore dans 4 jours au Brésil. Les Balkans, on parlait, ça c'est un truc avec Pierre qu'on a aussi en commun. On fait pas mal de tournées en Serbie notamment. Pas mal en Italie, en Europe. Là, j'étais à Londres aussi il n'y a pas longtemps. Enfin, je voyage pas mal aux États-Unis, donc, je le disais. Et puis, je passais un petit peu par la case Aznavour un moment. Un petit peu de variété, c'était enrichissant et très intéressant. Et puis d'avoir l'occasion par mon producteur aussi qui est à Clermont-Ferrand, enfin qui est parisien, mais qui est clermontois, mais qui vit à Paris et qui est fondateur du Jazz en Tête, c'est le festival de Clermont, d'avoir croisé les plus grands musiciens de jazz américains. Avoir fait des jams avec Mulgrew Miller, Roy Hargrove, James Carter. D'avoir discuté avec eux, enfin, ça m'a vraiment formé ce festival. Et puis Marciac, et puis aussi d'autres festivals, je pense à celui de Pinarello, où j'ai rencontré pas mal de copains. Enfin voilà, faire le réseau. Je jouais aussi avec Aldo Romano pendant quelques années, qui m'a bien aidé dans le métier. Enfin voilà, beaucoup de
rencontres,
rencontres avec des grands. Jusqu'à là encore aujourd'hui, l'actualité, c'est toujours André Ceccarelli, c'est-à-dire qu'on avait fait le premier disque et on se retrouve un peu plus de 10 ans plus tard. Et cette fois-ci, c'est trio avec Sylvain Romano, donc le même bassiste que le premier disque, mais en trio. Il n'y a pas de piano, pas de guitare et c'est un hommage à Django Reinhardt.
Wow,
okay. Ça sort, ça s'appelle Django, point d'exclamation. Ça sort le 11 octobre, il y aura du vinyle et du CD.
Et on peut venir vous voir en live aussi.
Voilà, on va faire une sortie à Paris au Sunside. Il y a 3 options, le 31 octobre, le 1 ou le 2 novembre. Voilà, et puis il y aura après, toute l'année prochaine, j'ai pas encore les dates en tête, mais il y aura quelques festivals à venir.
Et alors tu parlais de ton premier disque, moi j'ai vu qu'il s'appelait Brother Stone.
C'est ça.
En 2013, et puis tu as eu le prix Django Reinhardt, t'en parlais tout à l'heure, et une élection en tant que musicien, de l'année 2019 quand même, par l'Académie du Jazz.
Ouais, ça c'était le prix Django Reinhardt, ouais. Et puis une nomination aux
Victoires de jazz
en 2013. Le disque est sorti en 2012 et ouais, avec ce premier disque propulsé assez rapidement. Et puis bon, voilà.
Et tu peux nous parler justement de ce premier disque?
Bah, ce premier disque, c'était justement cette résidence que j'avais au Duc. J'avais réuni André, que j'adorais, enfin que j'adore toujours, je veux dire, mais que j'avais 14-15 ans, j'étais allé voir pour la toute première fois. Stefano Di Battista, fan absolu, maintenant en plus c'est un copain, donc c'est aller voir les grands. Et puis c'était mon premier concert en tant que spectateur au Sunside à Paris. Ça devait être en 2003 si je ne me trompe pas. Et je vois André et puis maintenant je me retrouve à jouer avec lui, c'est incroyable.
Génial.
Et je l'invite au Duc, et il est venu avec Pierre de Bettman et Sylvain Romano. Et ça s'est super bien passé, c'est là il me dit t'as pas de disque et puis on m'a présenté à son producteur. Qui est Just Looking Production, Alex Lacombe, que je salue d'ailleurs, qui travaille en ce moment avec Maë de Faïs, la petite fille de Pierre Richard, qui est très talentueuse. Et donc bref, on a fait ce premier disque et ça nous a, enfin moi ça m'a propulsé grâce l'équipe, il y a aussi la musique, Dédé m'avait bien conseillé. Moi, je l'ai encore redit il y a 2 jours quand je jouais à Kéran avec Dédé, je dis c'est un peu mon père spirituel, il me le rend bien parce que là même pour le nouveau projet alors qu'il a 78 ans, il a une pêche d'enfer et un engouement. Il a « Ah, je me suis trompé, pardon. Ah, je me suis trompé, c'est pas grave, ça va. Bah, »
Et ouais. Après, 4 disques, toi aussi, donc vous êtes à 4-4.
Ouais, c'est le premier. Deuxième, c'était un quintet avec Renaud Jansan, qui apparaît aussi dans un des disques de Pierre. Musique très arrangée, enfin, j'avais fait beaucoup j'avais beaucoup composé, beaucoup arrangé. Troisième, c'est avec Ali Jackson, et donc c'était le batteur pendant 10 années du Lincoln Orchestra avec Winton Marsalis. Et puis Daryl Hall, c'était le troisième disque. Et puis quatrième, c'est au Brésil que j'ai fait.
C'est ça, c'est ce que j'ai vu.
Ouais, donc il y a ce truc qu'on a en commun avec Pierre, c'est qu'on aime voyager, on aime les cultures, on est curieux des cultures autres, de loin comme de près. Et puis le Brésil, bon, moi j'ai appris à parler portugais, j'ai fait plusieurs concerts et disques là-bas, et puis plein de contacts aussi, donc c'est un peu encore une autre terre d'attache. Les États-Unis pareil, à New York, je commence à faire un peu mon monde aussi à Londres. Donc c'est bien de creuser un peu en dehors de l'Hexagone. Et puis donc c'est venu en 2019, j'ai enregistré là-bas le quatrième album qui s'appelle Vista Chinese. Et après malheureusement il est sorti pendant le Covid, alors c'était pas de bol. Donc après j'ai fait l'année dernière deux disques en co-leader. Le premier c'est avec Nicolas Gardel. Qui s'appelle Symétrique, Yohann Serral ou En Coulondre. C'est la musique un peu plus électro, funk, drum and bass, complètement différent de ce que j'ai l'habitude de proposer au public, ouais, alors que je joue cette musique-là depuis que je suis gamin. Hein, depuis que moi, c'était Maceo Parker, mon héros au tout début. J'avais oublié de le préciser. Après Piccolo Saxo, quoi. Maceo Parker. deuxième disque, c'est avec un guitariste... Richard Manetti. Voilà. C'est sorti aussi cette année. C'est le Symétrique est sorti l'année dernière. Bonjour. Et puis le disque avec Richard est sorti. Les deux en même temps, je crois, l'année dernière, au mois de mai. J'ai déjà la mémoire qui flanche. Et on a eu pas mal de gigs, de concerts avec Symétrique. Parce que c'est quand même des cadeaux. Enfin, Yohann Serral, qui est maintenant le prof du conservatoire de Nice, comme Pierre, il est de là-bas. Qui a une activité vraiment débordante. Et puis Laurent Coulondre, c'est le poulpe du clavier. Il est juste incroyable. Mais voilà, donc c'est deux projets que j'ai pas mal défendus ces deux dernières années. Puis avec Pierre, toujours un petit peu. Bon, des fois, c'est Erving Akao qui me remplace, puisque je suis pas mal occupé avec tous ces projets. Et voilà, la rentrée, ça sera donc le trio avec Dédé. Et aussi, pour terminer, au niveau des projets, cette année, j'ai fait un projet, c'est un alto summit, c'est-à-dire on est quatre saxophonistes alto, avec une rythmique, donc qui sont Pierrick Pedron, Géraldine Laurent et John Gordon, et moi, et puis une rythmique avec Fred Nardin, Francesco Siniglio et Mathias Salaman. Ça s'est sorti au mois de mai.
Ok, voilà. Et ben, je propose qu'on écoute un morceau, un extrait de l'album qui est sorti en 2020, donc qui a influence brésilienne. On va écouter ça tout de suite. Alors pourquoi le Brésil ?
C'est un pur hasard. Il y a un réseau dans le saxophone qui est super. C'est le réseau des saxophonistes. Il y a des festivals de sax. Il y a les festivals de jazz, les festivals de musique, de jazz en l'occurrence pour nous, mais il y a les festivals de saxo.
Waouh !
Et il y en a un notamment qui se passe tous les 4 ans. C'est un peu la Coupe du Monde du sax. dans un pays différent. Le premier que j'avais fait, ça s'appelle le Congrès international de saxophone. C'est plus autour des saxophonistes classiques, mais il y a un petit peu pour les sax, les musiques du monde, le jazz, le funk, tout ça, les musiques improvisées. Et le premier, c'était en Thaïlande, où j'ai rencontré James Carter, notamment. Et celui d'après, il se passait à Strasbourg. Et en fait, à Strasbourg, j'ai fait mes tas de contacts. Bah justement la Serbie, j'avais rencontré Jerry Bergonzi, j'avais rencontré l'orchestre de Spock Frevo. Et là un gars qui me dit, moi j'ai un festival qui est à Brasilia, Carlos Gontijo. Parce que ça, c'est, là il y a des petits festivals, il y a le mondial et puis il y a les petits festivals à travers le monde. C'est à Brasilia, invitation novembre 2015, moi j'y vais, je connaissais rien du Brésil, rien du portugais. Et Brasilia direct, moi j'étais là, ça va
pas
être... en fait, j'étais un peu déçu, parce que Brasilia, c'est pas du tout la carte postale.
Voilà. Bah, ça reste le Brésil, tout le monde a envie d'aller au Brésil.
Ouais, bah, vous allez à Brasilia, vous allez voir. Je sais pas si ça va vous plaire. Enfin, c'est sympa, parce qu'après, moi, j'ai découvert, c'est une autre culture, le centre du Brésil, comment s'appelle cette région déjà, le Goya, où il y a Goiânia, où c'est un peu désertique, finalement, assez sec, ça n'a rien à voir, il y a quasiment pas d'arbres, c'est le désert, un petit peu, quoi, des grandes plaines. C'est assez spécial. Moi, j'arrive là-bas et puis là, je rencontre en fait deux amis qui vont changer ma vie. Le premier, c'est Ademir Junior, qui est un saxophoniste clarinettiste de Brasilia, assez incroyable. Et le deuxième, c'est Idriss Boudriwa, c'est un franco-algérien qui est réparateur de sax, saxophoniste, arrangeur, qui a roulé sa bosse avec tout le monde et qui a une soixantaine d'années. Et maintenant, c'est devenu vraiment le meilleur ami, quoi. On se parle tout le temps, tous les jours. Et donc là, je suis content, je le vois le 26 au soir, donc c'est super. Et en fait, ils m'ont ouvert les portes un peu de la culture brésilienne. Déjà, le choro, moi, je connaissais rien. Le frevo, bon, j'avais justement vu Spock à Strasbourg et j'avais découvert. Ah oui, c'est ça, le frevo, le truc du nord. Ça me parlait du nord, du sud, je vois où c'est, Sao Paulo. J'apprends. Où est-ce que c'est l'Amazonie, où est-ce que c'est pas que je savais pas, mais on est dans le terrain, c'est quoi les cultures, c'est qui Pixinguinha, c'est qui après tous les MPB, les grandes figures voilà, de la musique brésilienne, c'est pas que Hermeto Pascoal, c'est aussi João Donato, c'est, voilà, on va pas tous les citer, mais bon, c'est pas que Carlos Jobim, c'est des tas de compositeurs. Et j'apprends, et puis j'apprends le portugais en même temps, puisque là, au niveau d'anglais, là-bas, il est un peu pas terrible. Je reviens après en 2016, je fais un disque avec Ademir en live à Brasilia. Je refais un disque aussi avec Idriss en studio à Rio. Et puis voilà, c'est lancé, j'y vais à peu près une à deux fois par an. Mais à chaque fois que j'y vais, j'ai des élèves. J'ai appris le portugais, j'ai pris une prof à Paris, je bossais vraiment... sérieusement, j'avais jamais fait ça, alors que je parle bien anglais aussi, mais là c'était vraiment sérieux. C'était vraiment,
Il faut apprendre le portugais, quoi.
Ouais. Après, c'est pas un pays où je pourrais vivre. On me dit, ouais, t'as la brésilierie, tout ça. Je dis non, c'est surtout l'amitié et l'envie de se dépasser un petit peu. Et puis j'adore le Portugal aussi. Donc là, j'étais à Palmela, l'année dernière, à peu près à la même période. Et donc, je me suis rendu compte que même là aussi, je pouvais communiquer et comprendre. Ah, c'est un sentiment de liberté. Avec le portugais, et puis quand même, on croise quand même pas mal de Brésiliens partout dans le monde.
Carrément.
Donc voilà, il y a ça, c'est d'apprendre une langue, c'est ça, apprendre une culture.
Complètement.
S'ouvrir au monde. Et puis aussi maintenant, l'espagnol, je le comprends bien grâce à ça, et l'italien.
Bien sûr.
C'est une langue latine. Voilà, donc après, j'ai fait mes réseaux, mes contacts. Idriss qui, à chaque fois, m'épaule, me trouve... Là, j'y vais pour une masterclass, c'est lui qui a tout géré. Avec l'endroit, là où il travaille, il a son atelier. Je veux des élèves, il me trouve des élèves. Il me dit, je suis ton impresario au Brésil, à Rio. C'est un peu ça. Hein.
C'est ça.
Et comme il est apprécié de tout le monde...
Il galère pas, quoi.
Bah non, et puis tous les Brésiliens, en tout cas dans le monde du saxophone et du jazz, du petit monde du jazz, parce que là-bas, c'est pas vraiment leur culture, ils me connaissent. Donc là, je vais essayer de préparer quand même une tournée pour l'année prochaine avec mon agent Marie Séguré, pour justement le trio Django. J'aimerais bien vraiment... Et puis j'ai fait un autre truc aussi là-bas, c'est que malheureusement avec la Russie maintenant c'est un peu mort, mais j'avais commencé aussi à avoir un lien culturel avec la Russie, avec des super musiciens, avec un pianiste qui s'appelle Alexei Podemkin, qui est sibérien et qui vit à Moscou. On avait fait une tournée incroyable en 2019 en début 2020, et il me dit... Est-ce que tu aurais un contact au Brésil? Je lui dis, bien sûr, je veux enregistrer, j'ai un ami producteur qui veut faire de la musique brésilienne avec sa musique. Et j'ai chapeauté ça, de faire rencontrer mon meilleur ami de Russie avec Idriss, mon meilleur ami du Brésil. Et on se retrouve, il y en a un qui parle pas anglais, l'autre qui parle pas portugais, je fais la traduction. Et ils sont devenus super potes. C'est vrai qu'après, il a invité Idriss pour faire une tournée en 2022 en Russie.
Incroyable.
Donc ça, on fait des connexions sans que je...
Dans le monde.
Voilà. Et ça, c'est quel cadeau, c'est génial.
C'est beau. Eh bien, tu parlais tout à l'heure du projet Symétrique, moi qui m'a bien plu. Et j'aimerais bien qu'on écoute justement un petit extrait.
Ah.
Waouh. Et justement, tu étais en train de me dire là en off que vous t'as demandé un arrangement justement exactement pour ce morceau.
Ouais, c'est l'année dernière, Dominique Rieux qui a un big band à Toulouse, c'est tous les meilleurs musiciens de Toulouse. On a joué à Vienne l'année dernière avec il y avait Géraldine Laurent qui était invitée aussi puisqu'on est on est les artistes Pédidame là pour les 3 ans, enfin c'est notre dernière année là, on a encore un an de sursis. mais comme on est dans le réseau Pédidame, ça nous a aidé un petit peu à faire ce projet-là. On a joué à Jazz à Vienne l'année dernière, donc dans le théâtre antique. Et puis j'avais demandé à Nico qu'il me fasse un arrangement. C'est une compo que j'ai écrite pour notre batteur, Johan Serra. Parce qu'il est, c'est un caméléon, lui. Il peut jouer tout très très bien. Du reggae, il y a le son. Mm-hmm. Et il connaît très bien son affaire, c'est-à-dire qu'il a la culture de ça. Après, normalement, le morceau, il va en drum and bass, donc il connaît très bien ça aussi. Il va jouer du jazz, c'est vraiment dans la culture. Il va jouer, il peut jouer tout et très bien. C'est ça qui est incroyable, rock aussi. Enfin voilà, et donc... Hier, on avait un concert avec ce même projet de Dominique Rieux avec le Big Band. Et on l'a rejoué hier, donc j'ai vu Nico hier soir. On a rejoué le yo-yo.
Voilà, et on te l'a mis ce soir.
Ouais,
enfin, aujourd'hui, non, on n'est pas le soir.
Presque.
Presque. Et alors, vous deux, comment vous vous êtes rencontrés, Baptiste et Pierre, comment vous vous êtes rencontrés tous les deux?
Alors, la toute première fois qu'on s'est rencontrés, c'était une jam session au Sunside de Paris, où je l'avais vu devant, je me suis dit, oh, c'est Baptiste Herbin. Et je le vois monter sur scène et je vois que le bassiste en a marre de jouer. Donc, je cours prendre la basse pour pouvoir partager un moment de musique. Et c'était super cool. Et je venais juste d'arriver à Paris.
C'était avec Renaud, ça, non?
Oui, il y avait Renaud
Sunside. Il y avait une vidéo.
C'est ça, avec Benjamin Enoch, Fred Pereira.
Donc tu le connaissais, quoi? Tu avais entendu sa musique
Moi, je l'avais vu la première fois à un festival à Cabaye, quand j'habitais encore à Nice et que j'étais encore au conservatoire. Eh ouais. Et je débutais. Et je l'avais vu avec Sylvain Romanon.
Quartet en question du premier disque.
Okay.
J'avais pris une claque monumentale et me dire mais comment il fait pour jouer à cet âge-là comme ça. Enfin bon. Et du coup j'ai commencé à beaucoup l'écouter, le suivre. Okay. Et quand je suis monté à Paris, j'ai pris mon courage à mes mains. C'est par un ami qui m'a branché Baptiste. Je lui ai proposé une tournée dans le sud d'une douzaine de concerts. Et par mail, il m'a répondu, ah, ça tombe bien, je rentre du Brésil, j'ai pile une période libre, c'est ça. Donc avec plaisir, il a été très ouvert et très cool dès le premier jour. Et depuis ce jour-là, c'est mon bratushka.
Bratushka, bratan.
Ouais.
Et donc vous êtes sur Marciac tous les deux, vous proposez quoi au public qui vient vous voir?
Alors pour ce festival, on propose les compositions de mon dernier CD, donc Second Life. Et on va introduire un morceau de son prochain album.
Ah oui.
Qui s'appelle Django. Et voilà, donc si on propose principalement ma musique, et sublimée par Baptiste.
Wow.
Merci. J'essaye, on essaye.
Et on peut vous voir rejouer demain.
C'est ça.
Et à quelle heure? Alors on peut vous retrouver sur la scène des bis.
Alors normalement, si je dis pas de bêtises,
14h.
C'est 14h15, la première représentation.
Et après, je crois que c'est 18h. On va vérifier tout de suite.
Ouais, ça tombe bien, il y a du montage, donc ça, je vais pouvoir le...
Ah bah voilà.
Okay.
Un petit instant. Excusez-nous, les
Excusez-nous pour le montage, c'est moi qui vais le faire.
Alors voilà. Donc 14h15 pour le premier concert, jusqu'à 15h15.
Vous êtes trouvé plus vite que moi.
Et le deuxième concert est à 16h45 jusqu'à 17h45.
Est-ce qu'on peut le redire comme ça, je vais bien monter. Alors quand est-ce qu'on peut vous retrouver demain?
Donc demain on pourra se retrouver à 14h15 et à 16h45.
Super, merci beaucoup. Eh ben, merci beaucoup pour cette interview. C'était très chouette de vous rencontrer et d'avoir toutes ces informations sur ces voyages, ces rencontres. Ça donne envie de faire du jazz, en fait.
Oui. Ah ben, merci Agathe, merci.
Merci beaucoup, à bientôt.
À bientôt.
Et bien maintenant, on vous propose sur cette émission d'écouter le quatrième jour de la cabine de témoignage qui est donc juste derrière. Vous pouvez laisser vos messages, le public peut laisser des petits mots doux, il y a beaucoup beaucoup de mots doux. On écoute ces deux petites minutes de bons moments. Il faisait pas beau, il y avait une bâche, mais on a quand même laissé 2 heures le téléphone et en 2 heures, on a eu quand même pas mal de choses, donc on va les écouter tout de suite. Les échos de la cabine,
la minute témoignage.
Et bonjour, c'était pour vous dire que c'était super. Bon, à part le temps aujourd'hui, là il pleut, tout le monde s'abrite, mais non, c'était cool. On a beaucoup aimé Pink Martini et Wolfpack. Par contre, si je peux donner une petite suggestion, il faisait très 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 chaud. Et ça donnait envie soit d'avoir des gros ventilateurs sous le chapiteau, soit d'ouvrir un peu plus les volets sur le côté, relever un peu les bâches parce qu'on mourait de chaud. Mais à part ça, c'était super, il y a des super groupes, il y a des super stands, l'organisation est top, et tout le monde est gentil, tout le monde est beau, tout le monde est content. Merci beaucoup, à l'année prochaine, bisous.
Hello, mais écoutez, moi, c'est mes vraies vacances se passent ici. Je suis très heureuse d'écouter du jazz en vrai. Et ici, le fameux spectacle vivant prend vraiment toute sa dimension. J'adore. Merci.
En un mot, ce festival, c'est la joie, la bonne humeur et voilà. C'est de la balle. Allez, au revoir.
Alors, après cette cabine de témoignages, on a entendu beaucoup, beaucoup de beaux témoignages pour cette journée pluvieuse, pardon. Nous a rejoint donc Jean-Marc Delachoux qui propose des ateliers pendant le festival. Jean-Marc, est-ce que tu peux nous parler un peu de ces ateliers d'écriture qui sont des ateliers d'écriture créative? Qu'est-ce que ça veut dire exactement?
Un atelier d'écriture créative, c'est un moment de partage. Parce que c'est vraiment bien quand c'est en groupe, où donc on libère sa créativité, mais dans l'expression écrite, comme on le ferait dans la musique, dans la peinture, etc.
Mais dans les mots.
Dans les mots. Nous, on adore les mots, on adore jouer avec les mots. C'est bizarre, mais bon, on y trouve des sonorités, on y trouve des choses improbables, impensables. Voilà. En fait, on travaille avec l'imaginaire.
Et on aime beaucoup l'imaginaire.
Absolument.
Et comment ça se déroule? Alors, c'est donc pendant deux heures, hein, de 10h à midi. Quelle forme ça prend? Les gens arrivent, voilà. Est-ce que tu peux nous parler un peu du déroulé de ces 2 heures?
Alors, en tout cas, ce que j'anime, le principe, c'est de mettre en confiance. C'est la bienveillance. Alors, il n'y a pas de jugement. On ne corrige pas l'orthographe. On ne corrige pas le style. On accepte tout.
Ce n'est pas l'école.
Non, absolument pas.
Justement, au contraire.
Au contraire. Certes, il nous faut une table et un siège. J'ai l'habitude de dire que c'est les deux choses que, vraiment indispensables. Bon, évidemment, papier-crayon, mais on le fournit. Donc, l'idée, c'est sur un thème, on va avoir grosso modo, enfin en général, ça dépend du nombre de participants, on va avoir 3 séquences d'écriture. Qui viennent après une proposition, hein, c'est-à-dire que l'animateur a comme boulot d'introduire le thème, de créer, je dirais, l'environnement favorable à l'expression, on va le dire comme ça. Et puis, donc, pendant 15 minutes, donc c'est quelque chose d'assez short, c'est de l'écriture spontanée, mais il s'avère que tout le monde sait écrire, c'est comme faire du vélo, on l'a appris, on l'a peut-être un peu oublié, parce qu'aujourd'hui, On va peut-être écrire quoi, la liste des courses.
Nous, on écrit même, beaucoup en tout cas. Plus.
Ah ben ça c'est bien. Alors attends, tu sais que dans toutes les activités créatives, ça commence par l'écriture. Hein, un spectacle de danse, un spectacle, voilà. Enfin, je veux dire.
On ne passe pas de la scène sans passer par l'écriture.
Absolument. Mm. Et donc pendant 15 minutes, chacun livre ses pensées, laisse aller son imagination. Par la plume, et puis ensuite c'est là le grand moment, c'est qu'on partage nos écrits avec, alors je le dis de suite parce que l'écriture est souvent intime, hein. On peut aller dans des parties vraiment qu'on ne souhaite pas dévoiler, donc il y a le joker, on peut à tout moment dire ben voilà, moi ce que j'ai écrit je le lis pas, je le partage pas, mais sinon il se passe des choses assez voilà, passionnantes là, et sachant qu'il y a 3 temps comme ça, donc on s'enrichit les uns les autres.
Et alors il y a eu quoi comme thème là jusque là, par exemple?
Alors, tu me parlais de pendant le festival, qu'est-ce que je fais, puisque j'anime ça à l'année dans d'autres lieux. Moi, je suis un festivalier, encore bénévole cette année. Bon, j'ai bossé 30 ans dans le Gers, donc je veux dire, je connais le coin. Le thème que nous développons cette année, parce que je considère qu'il est, je trouve qu'il est... tellement la substance de Jim, c'est sur la rencontre, c'est essayer de faire évoquer donc aux participants, qu'on appelle des écrivains, quels sont des témoignages de rencontres, donc musicales bien sûr, d'abord, tu vois, intellectuelles. On vient d'avoir un excellent témoignage là juste avant sur ce que peut provoquer la musique comme support, mais je veux dire aussi toutes les rencontres humaines qu'on peut faire à travers le monde. Donc Marciac, c'est le carrefour du monde.
Complètement. Et puis là, on le voit, tous les jours, on rencontre des gens nouveaux. C'est vraiment un moment humain qu'on est en train de passer aussi sur ce festival.
Oui, alors voilà. Donc l'idée, c'est de libérer donc, cette parole par l'écriture. Mais à la fois, on n'est pas des passéistes. D'abord, on travaille donc sur les souvenirs, mais on travaille aussi sur la fiction, c'est-à-dire... sur le thème de cette année, on va bien sûr bosser, écrire sur les rencontres à venir, les rencontres imaginaires qu'on souhaiterait faire. Avec qui aimeriez-vous passer une journée, alors à Marciac ou ailleurs. Tu vois, je veux dire, il faut libérer le rêve, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas encore advenu, il faut se préparer à le vivre.
Et nous, à la radio, on aime beaucoup les fictions sonores, et ça, c'est aussi une belle écriture. L'année prochaine, on fera des ateliers écriture et fiction sonore.
Ah, mais pourquoi pas ? Ça, c'est absolument génial. Bon, tu sais, je démarre souvent des ateliers par une introduction musicale. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait plein de trucs. Là, on a fait l'an dernier. J'anime à l'année. On a lancé dans le petit pays où j'habite, qui est à 2 heures d'ici, un petit festival de rue, d'écriture dans la rue, qui s'appelle Les Cris de la rue. Donc, on démarre souvent les propositions par des introductions musicales. On a fait un truc sur le dernier festival sur la rencontre avec l'autre, les différences, ce qui nous enrichit. Et par exemple, on a démarré avec Maxime, né quelque part, tu vois, je veux dire. Et puis à partir de là, si vous étiez né au Brésil, en Russie, en Sibérie même, pourquoi pas, imaginez quelle aurait pu être votre vie, en quoi ça serait... en quoi ça serait différent, et sûrement très riche, voilà. Mais rien que l'imaginaire, tu sais, il peut nous transporter, voilà. Donc, oui, banco.
Allez, super.
Next year.
Et du coup, là, si, par exemple, le public qui nous écoute a envie de vous rejoindre sur des ateliers, comment ils font ? Ils s'inscrivent
Oui, c'est mieux, parce que si tu veux, le problème, c'est qu'on peut écrire, on peut faire ça... avec 9000 personnes,
plus difficile
comme le premier soir, mais c'est mieux effectivement qu'il y en ait un groupe de 8-10 personnes. Après je limite parce que si tu veux on ne peut pas gérer de la même manière voilà, un grand groupe qu'un petit, et donc pour avoir 3 séquences qui est important parce que si tu veux, il se passe des choses, des rebonds quoi. Voilà, oui il faut s'inscrire, je souhaite qu'on s'inscrive, c'est très simple, il y a mon numéro, je vais le donner, il y a mon adresse mail, et donc ici à Marciac on va faire ça encore, donc ce matin on a fait une petite introduction, on n'était pas très nombreux mais
justement.
Je compte sur la promo de la radio. Voilà, dimanche prochain. Donc, moi, c'est le matin. Alors oui, on m'a dit, oui, il faut se lever. Bah oui, oui.
Ah bah oui.
Non, mais c'est le matin qu'on est le plus clair.
Mais oui, on est d'accord.
D'accord. D'accord. Ouais. Bon, dans le matin, de 10h à midi. Alors, dimanche prochain, ça se passe chez Guirette. Alors, j'appelle ça chez Guirette, je ne sais pas si vous savez, c'est un peintre qui expose entre les deux places. Là,
ah, c'est là où on est allé tout à l'heure.
Voilà.
Ouais, ok.
Et il expose surtout dans un jardin dont je suis amoureux. C'est-à-dire, c'est un lieu extraordinaire. C'est un verger, un petit verger.
Ah, c'est là, juste à droite, finalement.
Voilà.
Ah,
ça a été, à un moment donné, un petit resto. Enfin, il y a eu beaucoup d'emplois. Tu mangeais à côté des poires en train de pousser.
Voilà. Génial.
C'est absolument génial. Donc, pour l'écriture, c'est parfait. Donc, c'est Christian Guirette qui nous accueille le 28 juillet. Et puis après, le mardi 31, on est à l'Âne Bleu, donc vous connaissez bien sûr la galerie de Satie, voilà, dans la rue Saint-Pierre. Bon, je répète ça s'il le faut.
Super, merci beaucoup. On va donc diffuser tout ça, on espère que vous aurez plein de monde. Et alors une dernière question, puisque vous faites aussi partie d'une association, une association du coin qui s'appelle les Plumes d'Aramis.
Ben oui. Voilà.
Et c'est là où vous faites justement les ateliers à l'année.
Absolument. Alors les Plumes d'Aramis, ben, sont nées dans le Gers. Parce qu'à l'époque où je travaillais dans le Gers, j'ai démarré les animations d'atelier à Vic-Fezensac, où je continue, où j'ai toujours un groupe qui est fidèle, qui suit. Les Plumes, c'est évident. Ici, c'est le pays du canard, le pays de l'oie. Bon, on est d'accord. Et puis Aramis, c'est pas une coquetterie par rapport au pays. C'est un petit hommage à mon père qui s'appelait réellement, qui portait comme prénom Aramis.
C'est très beau. Voilà. Merci beaucoup pour cette interview. On espère donc que vous serez très nombreux et c'est déjà la fin de cette émission de Quartier Libre. On vous invite donc tous les auditeurs, auditrices publiques de Jazz in Marciac à nous rejoindre tous les jours de 13h à 14h pour des émissions de radio en direct et quotidienne dans notre camion studio de radio. Et on vous dit à demain pour la 6e journée déjà. N'oubliez pas que vous pouvez laisser vos messages dans notre cabine de témoignages qui est accrochée au camion studio de radio. Et les podcasts justement de ces témoignages sont en ligne. Vous pouvez les retrouver sur quartier-libre.eu et sur le Spotify de Quartier Libre. Allez, on se dit à demain.